Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Chaque mercredi, je vous propose un regard féministe sur un sujet philosophique. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion qui m'a été suscitée par la question d'une adhérente du club de Simone lors du book club de vendredi dernier. La question portait sur la difficulté pour une femme, cherchant à s'émanciper, de savoir si ses gestes quotidiens et féminins sont compatibles ou non avec une libération des normes sexistes. La question sous-jacente est de savoir ce que serait et ferait une femme vraiment libre dans les situations ordinaires qui nous posent difficulté, celles où l'on rejoue des gestes normés comme féminins. Puisque le projet féministe est de comprendre et de transformer la situation d'oppression que subissent les femmes dans les sociétés patriarcales, on a vite fait d'espérer pouvoir se fonder sur un guide ou sur un portrait robot de la femme libre. Soit parce qu'on voudrait pouvoir s'appuyer sur ce modèle pour s'orienter dans l'existence, soit parce qu'on voudrait s'en servir pour pointer du doigt les lacunes concrètes des femmes qui se prétendent émancipées. Or, j'aimerais vous dire pourquoi il me semble important de prendre conscience qu'il n'y a pas de définition absolue de la liberté, en général, et encore moins de la femme libre. Pourquoi est-ce impossible? Pourquoi même cette question sert-elle le plus souvent à restreindre le champ de pensée et d'action des femmes et à disqualifier, voire manipuler leurs choix en les qualifiant d'incohérents? En d'autres termes, pourquoi faut-il envisager l'émancipation sans s'assujettir à un idéal particulier et restrictif de la liberté? C'est ce que nous allons aborder dans ce 13e épisode de la saison 2 de ce podcast. Pour tout vous dire, j'ai passé plusieurs années de ma vie à réfléchir modestement et à travailler modestement aussi sur la notion de liberté et à en retracer une généalogie, à retracer la façon dont cette idée a été pensée par les philosophes considérés comme majeurs dans notre tradition. C'était l'objet de ma thèse. Et plus précisément, je cherchais à comprendre le lien entre le sentiment de liberté que nous pouvons éprouver dans tel ou tel contexte, donc de façon tout à fait affective et singulière, et les définitions magistrales et rationnelles de la liberté qu'on trouve chez les philosophes. Et pendant que je menais cette recherche théorique, je découvrais dans ma vie quotidienne, très concrète, les multiples discriminations auxquelles se confrontent les femmes parce qu'elles sont des femmes. Je découvrais donc la mise à l'écart des postes convoités, qui sont très majoritairement octroyés aux hommes, sauf lorsqu'un concours garantit l'anonymat des candidatures. Je découvrais les pressions violentes et la solitude qu'on impose aux mères, qui s'accroissent lorsqu'elles ne bénéficient pas d'un environnement social favorable. Je découvrais la distribution épuisante et invisible des rôles dans les couples hétérosexuels traditionnels. Je découvrais la perte progressive de parole et d'initiative des femmes à mesure qu'elles sont prises en étau par le modèle patriarcal, donc à mesure qu'elles avancent dans leur vie telle qu'elle est planifiée par le modèle patriarcal. Et bien sûr, je découvrais l'inégalité économique qui se renforce à travers tout ceci. Bref, je décortiquais concrètement mes expériences personnelles de liberté et de non-liberté et celles que j'observais autour de moi. Et par ailleurs, je décortiquais les textes des grands philosophes sur la liberté. Et même si rien dans ces textes ne me permettait de comprendre la domination patriarcale, puisque ces textes y participent, c'est ce que je travaille désormais, il y a quelque chose que je déconstruisais dans cette thèse et qui m'est utile aujourd'hui pour affronter la fameuse question de la femme libre. Cette idée est la suivante. Lorsque qu'une certaine représentation idéale de la liberté est promue par une culture donnée, c'est-à-dire lorsqu'une culture prend une certaine représentation de la liberté pour en faire son idéal, elle se trouve réappropriée, cette représentation, par le système dominant pour justifier une foule d'injonctions. Donc c'est le type de discours qui commence par « si vous voulez être libre ». Donc si vous voulez être libre, alors vous devez faire ci ou ça, être comme ci ou comme ça, avoir ceci ou cela, etc. On l'observe donc dans de nombreuses manipulations rhétoriques, qu'elles soient politiques, publicitaires, managériales, etc. C'est une façon récurrente de manipuler les désirs d'émancipation qui animent les individus, qui spontanément veulent quitter la souffrance qui les accable et qui donc veulent s'émanciper. Mais ces désirs d'émancipation sont manipulés ou ont en tout cas à faire face à de nombreuses propagandes rhétoriques. Et donc cette façon de manipuler les désirs d'émancipation a lieu de façon à produire sans douleur le conformisme qu'on attend des individus. C'est cette approche que je propose de ce qu'on appelle maladroitement, à mon avis, la servitude volontaire, et que je vous résume ici de façon très très succincte. En réalité, lorsque nous nous soumettons volontairement, donc lorsqu'il y a servitude volontaire, selon l'expression consacrée, ce n'est pas par désir d'asservissement, donc ce n'est pas un asservissement voulu pour lui-même. Mais cet asservissement est désiré par espoir d'émancipation. C'est-à-dire que nous espérons que notre docilité ponctuelle nous apportera la liberté désirée. Et c'est en ce sens que souvent, les idéaux de liberté sont réutilisés par de multiples formes de discours pour nous inviter à obéir à telle ou telle injonction. Parce que, à la clé, eh bien, il y aura la liberté que nous désirons. Alors pourquoi je vous parle de ceci dans cet épisode ? Eh bien parce que lorsqu'on est une femme soucieuse de s'émanciper, lorsqu'on est consciente des limites qu'on a intériorisées et dont on veut sortir, on cherche souvent à savoir quel est le comportement le plus adéquat, quel est le comportement le plus libre que je vais pouvoir adopter dans telle ou telle circonstance. C'est d'autant plus le cas que nos comportements peuvent toujours nous paraître empreints de stéréotypes qu'on a conscientisés, puisque précisément, nous sommes dans la catégorie de l'autre, hein, pour reprendre ce que nous voyons, nous avions vu avec dans l'épisode consacré à Simone de Beauvoir. Donc, nos comportements sont normés par ce qu'on appellera, ou ce qu'on peut appeler avec Simone de Beauvoir, le devenir femme, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire pour devenir la femme qu'on attend de nous. Et donc, même lorsqu'on veut en sortir, eh bien, quand on veut en sortir, on se demande quels sont parmi nos comportements ceux qui sont encore empreints de stéréotypes et qui vont freiner notre émancipation. Et or, tous nos comportements quasiment sont empreints de stéréotypes, donc comment s'en sortir ? Puis-je me maquiller sans trahir ma quête d'émancipation féministe ? Comment dois-je vivre ma maternité sans m'exposer à y revivre les limites qu'ont si souvent vécues les femmes, etc. Alors, dans une société patriarcale où l'éducation et la culture sexiste en général ont conditionné nos comportements et nos goûts, s'émanciper, c'est se confronter à des questions qu'on ne se posait pas auparavant. Et Simone de Beauvoir souligne très justement cette caractéristique de la femme indépendante, elle est divisée. Alors je vous lis la citation complète parce qu'elle me semble très importante. « Tous les problèmes vivants trouvent dans la mort une solution silencieuse. Une femme qui s'emploie à vivre est donc plus divisée que celle qui enterre sa volonté et ses désirs. Mais elle n'acceptera pas qu'on lui offre celle-ci en exemple. C'est seulement en se comparant à l'homme qu'elle s'estimera désavantagée. » Fin de citation. Alors comment comprendre cette division de la femme soucieuse de liberté? Eh bien, une femme qui veut vivre, donc qui veut vivre ses désirs, qui ne veut pas les enterrer, qui veut se réaliser comme sujet doué de volonté, comme peuvent le faire les hommes, pour reprendre les termes de Beauvoir, cette femme se heurtera en permanence au moule duquel elle veut sortir et dont elle ne peut prétendre s'abstraire parfaitement. Parce qu'elle en a conscience, justement, elle se heurtera à la part de conformisme qu'elle concédera par ailleurs pour pouvoir interagir avec les autres, dont elle connaît les clichés et les attentes, donc elle devra faire avec. C'est ce qui crée ce paradoxe de l'émancipation, qui est que l'émancipation est incompatible avec une certaine forme de bien-être ou de confort insouciant. La docilité ne crée aucune division, donc elle est confortable, puisque on y désire ce qui est attendu de nous sans avoir conscience du caractère discriminant de ces attentes. Et cette docilité est tout à fait compatible donc avec une vie agréable. Au contraire, la libération est d'abord libération des illusions. Elle passe donc par la compréhension des injustices et des préjugés qui structurent les rapports de domination socio-économique, et cette compréhension, bien sûr, elle est douloureuse, parce qu'elle m'éclaire sur ce que je vis et parce qu'elle m'ouvre les yeux sur les conditions des autres opprimés en général. Donc une femme libérée n'est jamais absolument libre, et elle le sait. Simplement, elle est plus libre que si elle enterrait sa conscience et ses désirs, ce qui malgré tout procure une joie incomparable, qui n'est donc pas de l'ordre du bien-être confortable, mais qui est une joie, et qui est la condition pour ensuite se dessiner une vie où l'on va s'efforcer de devenir de plus en plus libre. Alors j'irai encore un peu plus loin. Comme la femme est divisée, enfin la femme qui est soucieuse de son émancipation, qui a pris conscience des freins auquel elle a à se confronter pour s'émanciper. Cette femme est divisée entre le conformisme latent avec lequel il faut bien faire et sa volonté de vivre pleinement. Elle se confronte à l'incertitude dont je parlais au début de l'épisode. Que puis-je concéder au conformisme sans renoncer à ma liberté? Donc, puisque nous continuons à être des êtres sociaux, nous sommes condamnés à concéder au moins en partie certains actes que nous pourrons en même temps conscientiser, c'est-à-dire dont nous verrons qu'ils sont conformistes sous un certain angle. Et c'est souvent une question qui revient autour de l'idée de féminité. Nous grandissons en nous inspirant de telle ou telle vision de ce que nous appelons la féminité, en nous efforçant donc de jouer notre genre d'une certaine façon, pour reprendre la thématique de Judith Butler. Et lorsqu'on a déconstruit ces normes, il nous faut malgré tout continuer d'exister socialement et de nous rapporter aux autres d'une façon qu'il faudra encore jouer socialement, mais cette fois d'une façon consciente. Et même dans une vision alternative aux stéréotypes les plus standardisés, on a conscience du jeu que nous jouons. Alors, à chaque fois se pose la question de savoir si l'on est en train de souscrire au modèle patriarcal ou non, donc si on renonce à notre liberté ou non, et peut se poser la question même de savoir si on est encore féministe dans certaines de nos actions ou non. Et si on ne la pose pas soi-même, pour soi-même, la question, elle peut nous être renvoyée de tous bords. C'est souvent à ça qu'on s'expose, justement, puisqu'on est, même lorsqu'on cherche à s'émanciper, eh bien, on est encore peut-être au moins autant, voire davantage, rendu vulnérable par les suspicions, les observations qui vont peser sur nos comportements. Et donc, des personnes qui se réclament féministes pourront vous dire que vous rejouez le modèle patriarcal en faisant tel ou tel choix ou en gardant telle ou telle habitude. Et d'autres qui s'affirmeront anti-féministes en feront autant pour vous montrer que vous n'êtes pas vraiment libre puisque vous ne faites pas tout comme un homme. Alors, dans les deux cas, on vous sommera de vous identifier à un certain modèle qu'on présentera comme la femme vraiment libre. Et cette prescription, bien sûr, accroît la vulnérabilité et le sentiment d'impuissance qu'on cherchera à pallier en se conformant à un modèle, donc en se retrouvant de nouveau à obéir à un modèle tout fait. Voici pourquoi il me paraît utile d'être vigilante et de tenir compte du fait qu'en réalité, la recherche de la cohérence parfaite, donc de la conformité à un modèle de liberté, est un mode traditionnel d'aliénation. Et lorsqu'on veut vivre et devenir de plus en plus libre, eh bien rechercher la cohérence parfaite est un frein. La vie n'est pas une affaire de cohérence logique, n'est pas une affaire de cohérence rationnelle et d'orthodoxie absolue, mais c'est une affaire de bricolage, et de bricolage tout à fait singulier avec un ensemble de paramètres qui sont singuliers, personnels. Vivre, c'est sous cet angle, bricoler avec les circonstances du réel pour y réaliser nos désirs et certaines de nos valeurs, les valeurs les plus chères, avec et malgré les normes qu'on a déconstruites. Le but de ce bricolage n'est donc pas la perfection ou même la vérité incarnée, hein, la vraie famille ou la vraie féministe, mais le but de ce bricolage, c'est la joie qui émane d'une vie qui s'épanouit plutôt que de se réprimer. Et cette joie encourage l'émancipation des autres, bien plus qu'un modèle parfait de femme libre qui n'existe pas et qui serait à proprement parler invivable. À moins de fermer les yeux sur les contradictions de nos comportements et les contradictions du réel en général. Dans la citation de Simone de Beauvoir d'ailleurs, celle qu'elle appelle la femme libre se sait libre, elle se sait plus libre que la femme inconsciente des normes restrictives qu'elle a incorporées, mais elle se sait aussi moins libre que l'homme qui, lui, est acteur du système patriarcal et n'a pas à se dépatouiller avec les contradictions, les divisions qui concernent la femme en quête d'émancipation. C'est donc une liberté, là aussi, toute relative. Donc, dans la perspective que je vous propose, j'irai jusqu'à dire qu'une conscience des mécanismes d'oppression gagne à intégrer l'effet aliénant de toutes les injonctions qui sont masquées par des promesses de liberté et d'émancipation. C'est-à-dire en fait qu'une conscience des mécanismes d'oppression doit intégrer une dimension autocritique, c'est-à-dire autocritique à l'égard de sa tentation à proposer des injonctions qu'il faudrait suivre pour transgresser le modèle dominant. Alors, on peut donc, essayer de faire en sorte que cette conscience des mécanismes d'oppression, cette conscience critique, intègre comme un garde-fou la nécessité de ne pas imposer de modèle uniforme prétendument émancipé. Car tous ces devoirs et ces interdits qu'on adopterait pour être une féministe cohérente ou être une vraie femme libre auraient surtout un effet aliénant qui est d'accroître notre vulnérabilité et notre inaction. Discerner et assumer l'incohérence nécessaire pour vivre ses désirs sans recette, sans modèle, sans certitude, c'est sans doute la condition pour cesser de s'assujettir aux normes autant que possible, c'est-à-dire de façon imparfaite. Alors, au lieu de chercher un modèle ou une définition idéaliste de la femme libre, donc de la liberté, comme on l'a toujours fait dans l'histoire idéaliste de la pensée, on pourra plutôt, dans une optique davantage matérialiste, nourrir sa conscience et son imagination en se familiarisant avec la pluralité foisonnante des parcours de femmes, de ces femmes qui ont concrètement bricolé pour sortir du rôle dans lequel elles auraient pu rester enfermées. Et ce qui leur a permis de le faire, ce n'est pas leur volonté d'obéir à un modèle de femme libre. C'est leur créativité, c'est leur capacité à assumer les incertitudes et les contradictions et donc les incohérences. Au lieu de se rassurer donc dans une forme d'orthodoxie féministe, on peut aiguiser son attention et son esprit critique pour bricoler, pour créer et partager nos différences sans chercher l'uniformité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur le site ou à lui mettre des étoiles sur la plateforme audio de votre choix. Attention, les mercredis 23 et 30 décembre, il n'y aura pas d'épisode du podcast, mais je continuerai à vous écrire et à vous envoyer la newsletter du mercredi. Alors si vous ne la recevez pas encore et souhaitez la recevoir, elle est gratuite, il suffit de vous inscrire sur simoneetlesphilosophes.fr à la rubrique Club de Simone. Je remercie très chaleureusement Geoffroy Montel pour la masterisation de cet épisode et Macha Garibian pour la musique que vous commencez à entendre. Je vous souhaite une fin d'année la plus émancipatrice possible et je vous dis rendez-vous l'année prochaine, le mercredi 6 janvier 2021, pour la suite du podcast.